Laudetur Jesus Christus.
À la une de ce journal, cette décision de l'Allemagne qui négocie directement avec la Russie pour l'achat des vaccins Sputnik. Berlin fait donc cavalier seul et n'attend pas l'avis de Bruxelles. Joe Biden veut s'attaquer à une autre épidémie, celle des armes à feu, dont il veut limiter la circulation. Il a annoncé quelques mesures hier soir, mais sans le soutien du Congrès, lui-même très divisé sur la question, le président américain ne pourra pas aller bien loin. Dans ce journal également, la Ligue arabe qui propose sa médiation pour sortir le Liban de la crise, l'arrestation au Sri Lanka du cerveau présumé des attentats de Pâques de 2019. Et puis, notre dossier sera consacré au Tchad qui vote dimanche pour élire son président. Aucun suspense, c'est l'actuel dirigeant Idriss Déby au pouvoir depuis 31 ans qui devrait l'emporter alors que la population rêve d'alternance. Analyse du spécialiste Roland Marchal à suivre en fin de journal.
Radio Vatican, le journal, Manuela Figi.
Bonjour à tous. C'est sans doute un tournant dans la politique allemande et une rupture avec Bruxelles. Berlin annonce qu'il veut négocier directement avec Moscou pour recevoir le vaccin Sputnik une fois qu'il sera mis sur le marché européen. Cela alors que la commission de l'UE estime pour l'heure ne pas avoir besoin du remède fabriqué en Russie. Les détails avec Delphine Arbolier.
Berlin n'attendra pas la Commission européenne. Sur la question du vaccin russe Sputnik V, Berlin et Bruxelles ne sont pas du même avis. L'Allemagne souhaite négocier un contrat bilatéral avec la Russie pour l'achat de son vaccin contre le Covid-19. Elle espère recevoir les premières livraisons d'ici 5 mois au maximum, à condition bien sûr que l'Agence européenne de médicaments approuve sa mise sur le marché d'ici là. Du côté de l'Union européenne, en revanche, le vaccin russe ne suscite pas l'enthousiasme. Il y a quelques semaines, le commissaire européen, Thierry Breton, avait déclaré que l'UE n'avait pas besoin du Sputnik V. Mercredi, la Commission européenne a confirmé qu'elle ne souhaite pas passer commande à la Russie. Un revers pour Berlin qui s'était fait l'avocat du vaccin russe à Bruxelles. Les Allemands vont donc agir seuls, comme les Hongrois avant eux. Mercredi, c'est la Bavière, la région du sud du pays, qui avait annoncé avoir signé un accord pour recevoir 2,5 millions de doses. La Bavière souhaite aussi produire sur place une partie des futurs vaccins russes. Berlin, Delphine Herbelier pour Radio Vatican.
En France, l'Assemblée nationale étudiait un projet de loi sur le droit à l'euthanasie. Les discussions se sont terminées à minuit, sans vote. L'Irlande du Nord s'embrase. Une nouvelle nuit d'émeute a secoué Belfast où des centaines de personnes ont affronté la police à coups de pierres et de cocktails Molotov. Des années que le pays n'avait vu pareil spectacle. La colère est celle des unionistes attachés à la couronne mais qui s'estiment trahis par elle à cause du Brexit. L'affaire est suivie de près à Londres où Boris Johnson a appelé au calme. Aux États-Unis, Joe Biden face à une montagne. Le président américain a annoncé hier des mesures visant à renforcer le contrôle des armes à feu, quelques semaines après les 2 tueries qui ont ensanglanté les villes de Boulder et Atlanta. Pas de vaste plan, seulement des mesures ciblées à défaut de mieux. À New York, Loïc Loury.
Une épidémie au même titre que le Covid est une honte pour les États-Unis. C'est ainsi que Joe Biden qualifie la violence endémique liée aux armes à feu dans son pays. Chaque jour aux États-Unis, 316 personnes se font tirer dessus. Chaque jour, 106 d'entre elles en meurent. C'est une épidémie pour l'amour de Dieu et ça doit cesser. Le président a donc annoncé des restrictions contre les armes dites fantômes, assemblées à domicile et impossibles à tracer. Joe Biden compte aussi s'attaquer à la régulation qui entoure un accessoire utilisé lors de la récente tuerie de Boulder, une lanière stabilisatrice qui permet d'utiliser une arme automatique à une seule main. Enfin, il souhaite soutenir davantage les agences impliquées dans la lutte contre les violences par armes à feu. Pour aller plus loin, il reconnaît toutefois avoir besoin du Congrès. Ils peuvent agir immédiatement. Les membres du Congrès ont offert beaucoup de prières aux victimes, mais n'ont voté aucune nouvelle loi fédérale pour réduire la violence. Assez de prières, il est temps de passer à l'action. Un vœu pieux, tant le Sénat est divisé. Joe Biden aurait besoin d'une dizaine de voix républicaines pour interdire les fusils d'assaut ou imposer des contrôles d'antécédents universels. Une barre actuellement impossible à franchir pour les démocrates. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
Israël refuse de coopérer avec le tribunal pénal international. Début mars, une plainte y avait été déposée pour crimes de guerre présumés dans les territoires palestiniens. Mais Tel Aviv estime que la CPI n'a aucune légitimité pour ouvrir une telle enquête. Sans gouvernement depuis 8 mois, le Liban connaît un regain d'activité diplomatique pour tenter de débloquer la situation. Hier jeudi, c'est le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Oussam Zaki, qui a proposé une médiation entre les protagonistes. Elle a été acceptée par le président Michel Aoun. À Beyrouth, Paul Ralifé.
En visite à Beyrouth jeudi, Oussam Zaki a rencontré les principaux responsables officiels du pays. Qualifiant de critique la situation au Liban, le diplomate arabe a indiqué que des contacts seront menés avec les principales parties pour débloquer la situation politique. Des contacts qui seraient menés par le secrétaire général de l'organisation, l'Égyptien Ahmed Aboulret. Oussam Zaki a déclaré que le président Aoun l'a assuré que l'accord de Taif, qui a mis fin à la guerre civile en 1990, n'était pas menacé et qu'il constitue le cœur de la constitution libanaise, laquelle devrait être respectée par tous. La veille, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, avait rencontré à Beyrouth les différents dirigeants. Une visite interprétée par les analystes à Beyrouth comme un soutien au premier ministre désigné Saad Hariri, dont les profondes divergences avec le président Aoun empêchent la formation d'un gouvernement. Les deux hommes se sont rencontrés à 18 reprises depuis le 22 octobre 2020 sans parvenir à s'entendre sur la composition du futur cabinet, appelé à adopter de vastes réformes exigées par la communauté internationale en contrepartie d'une aide au pays du cèdre. Paul Khalife, Beyrouth, pour Radio Vatican.
Les violences en République démocratique du Congo et ce nouveau bilan dressé par les évêques du pays, au moins 6000 personnes ont été tuées dans la région de Beni depuis 2013, 2000 en Ituri pour la seule année 2020. On compte également 3 millions de déplacés, plus de 7000 personnes enlevées. L'épiscopat congolais dénonce l'occupation des terres, l'exploitation des ressources et l'islamisation de la région au mépris de la liberté religieuse. Une situation tout aussi inquiétante dans le nord du Mozambique où l'avancée des groupes djihadistes fait peser de lourdes menaces sur la stabilité du pays, mais aussi de toute l'Afrique australe. Après l'attaque sans précédent menée il y a 10 jours sur la ville de Palma, 5 dirigeants de la région se sont réunis avec le président mozambicain. Peu de résultats concrets sont sortis de cette réunion, hormis l'annonce d'une mission technique dans le pays, sans plus de précision. Jour de vote ce vendredi à Djibouti, où l'actuel président Ismaël Omar Guelleh devrait remporter un 5e mandat. Un dernier, en théorie, face à lui un candidat inconnu et novice en politique, car les leaders de l'opposition boycottent le scrutin. Au Sri Lanka, une étape importante a été franchie cette semaine dans l'enquête sur les attentats de Pâques 2019 qui avaient visé notamment des églises du pays. Celui qui serait le cerveau de ces attaques a été arrêté. Des informations sur l'identité du suspect ont également été révélées. Adélaïde Patrignani.
Le cerveau de ces sinistres opérations est un chef religieux musulman radical, Nofer Moulavi. Un autre homme l'aurait assisté. 32 suspects ont également été inculpés de meurtre et de conspiration en vue de meurtre, et 75 autres sont actuellement en détention sans avoir été inculpés. Tous auraient donc participé aux 8 attaques du 21 avril 2019 qui avaient fait 270 morts le jour de Pâques. 3 églises chrétiennes avaient été visées. Un groupe ayant prêté allégeance à l'État islamique avait revendiqué cette série d'attentats suicides. Le gouvernement de l'époque menée par le président Sirisena a été critiquée pour n'avoir pas pu empêcher les attaques. Sirisena a démissionné en novembre 2019, mais en février dernier, une commission d'enquête appuyée par plusieurs responsables chrétiens a appelé à des poursuites judiciaires contre l'ancien chef d'État. Sur ce dossier, la communauté catholique s'est toujours mobilisée pour que toute la lumière soit faite, notamment par la voix de l'archevêque de Colombo. Depuis 2 ans, le cardinal Ranjit demande sans relâche une accélération de la procédure judiciaire et un soutien aux familles des victimes. Il y a quelques jours, lors de la messe de Pâques, il a réclamé une action en justice contre l'ancien président. Si justice n'est pas rendue avant le 21 avril, a-t-il prévenu, nous descendrons tous dans la rue.
Adélaïde Patrignani. Un peu d'évasion avant de passer à notre dossier avec cette trouvaille archéologique exceptionnelle en Égypte. Une ville ensevelie a été mise au jour par une équipe d'archéologues dans la région de Louxor. En bon état, elle daterait du règne du pharaon Amenhotep III, soit il y a 3000 ans, ce qui en ferait la plus grande ville antique d'Égypte jamais trouvée et la plus importante découverte depuis le tombeau de Toutankhamon dans les années 20. Culture toujours avec l'annonce de la possible réouverture des musées du Vatican le 3 mai prochain avec un protocole strict pour les visiteurs qui devront réserver leur visite par Internet. Les galeries pontificales sont fermées depuis le 15 mars. C'est la 3e suspension depuis un an. Il est arrivé au pouvoir en 1990 par un coup d'État. Idriss Déby est candidat à un sixième mandat présidentiel au Tchad. Les élections s'y tiennent ce dimanche. L'homme fort du pays et son clan dirigent d'une main de fer cet État enclavé d'Afrique centrale, le troisième pays le moins développé au monde. Plus de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté, 20% des jeunes sont au chômage. Face à l'absence de perspectives, beaucoup rêvent d'alternance, mais le président s'accroche au pouvoir et n'hésite pas à réprimer ses opposants. Toutefois, Idriss Déby a su se faire de solides alliés, notamment à l'étranger. Son armée apparaît en effet comme un rempart face aux groupes terroristes. Certains États préfèrent donc le soutenir, quoi qu'il en coûte. Roland Marchal est chercheur au CNRS, où il étudie les conflits dans la Corne de l'Afrique et en Afrique centrale. Le scénario de cette élection, explique-t-il, est écrit d'avance. On l'écoute.
Le scrutin lui-même ne fait pas vraiment débat. Je pense qu'il y aura tous les rituels habituels, c'est-à-dire on va annoncer des taux de participation importants qui, ensuite, une fois la poussière retombée, seront très faibles. Et puis, de la même façon, dans un premier temps, on annoncera un score honorable, hein, disons au-dessus de 60%, et éventuellement, en confirmant la victoire d'Idriss Déby, on diminuera un peu ce pourcentage pour tomber à 55%, pour montrer qu'évidemment, il a une opposition, mais qu'il reste quand même élu par une grande partie de la population.
À quoi ressemble l'opposition au Tchad ?
Elle ressemble à l'opposition dans un pays qui vit sous un régime autoritaire depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire que d'un point de vue politique, il y a des divisions, une multiplicité de partis politiques avec certains qui sont dans l'opposition pour pouvoir revenir et être cooptés dans la majorité présidentielle, d'autres de la majorité présidentielle qui peut-être vont connaître des jours amers dans l'opposition, une opposition aussi de certains partis et de certains hommes politiques qui n'ont cessé d'être constants dans leur hostilité au régime d'Idriss Déby. Alors ça, c'est ce qui est organisé, ce qu'on voit. Et puis de l'autre côté, vous avez quelque chose de beaucoup plus difficile à mesurer, qui est de temps en temps des mouvements sociaux, des révoltes, des manifestations qui ont tout d'un coup un nombre assez important et qui s'expriment en défiance absolue vis-à-vis du régime actuel, notamment évidemment la jeunesse.
Oui, d'autant plus que la constitution avait été modifiée il y a quelques années, donc Idriss Déby pourrait se maintenir au pouvoir encore longtemps. Est-ce qu'il y a quand même un risque d'explosion finalement ?
Idriss Déby tient bien sa barre, puisque d'une certaine façon, il a construit un appareil militaire surdimensionné qui lui vaut l'estime de ses alliés occidentaux, la France et les États-Unis, et puis Israël aussi, et qui en même temps veille au grain en interne. Donc, vu l'argent qu'il dépense pour maintenir ça, il peut durer. Mais le problème, c'est évidemment que se passera-t-il le jour où lui-même disparaîtra ? Parce que là, il y a beaucoup d'inquiétudes sur la capacité de suivre les règles constitutionnelles et surtout d'organiser une transition légale et surtout pacifique. On pense qu'il y aura très rapidement des affrontements au sein de ce qui fait lieu de garde présidentielle, voire de l'armée, et il y aura des troubles assez importants. Encore une fois, c'est la population civile qui va payer.
Pourquoi, au vu de cette situation et de ce régime autoritaire, la France continue de rester un allié important d'Idriss Déby ?
D'abord, vous avez en France des gens qui sont pleins d'admiration à l'égard d'Idriss Déby ou qui pensent qu'il est un allié utile parce qu'il mouille sa chemise dans des associations avec les Français, notamment au Sahel. Donc pour ça, on le protège. Après, on voit que Idriss Déby bénéficie donc d'appui dans les milieux militaires français, peut-être les milieux de renseignement, et que ceux-ci font flèche de tout argument pour justifier un soutien qui n'est pas simplement de la France, qui est à travers la France, d'obtenir des crédits des institutions internationales ou de l'Union européenne pour maintenir à flot un régime où la corruption est quand même extrêmement importante et, encore une fois, annule toute capacité, toute possibilité de développement intérieur tchadien et laisse le peu de richesse qui est produite au Tchad dans les mains d'une élite qui est une famille élargie.
Voilà, interrogé par Adélaïde Patrignani, Roland Marchal, chercheur au CNRS, spécialiste des conflits dans la Corne de l'Afrique et en Afrique centrale, était ce matin l'invité de Radio Vatican. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité à notre écoute. On se retrouve à 13h pour une nouvelle édition en langue française. Belle matinée à toutes et à tous.